La voie ferrée de Benguela qui relie le territoire de Dilolo-Katanga au port de Lobito en Angola sur l'océan Atlantique a été inaugurée samedi dernier. Le trafic sur cette voie était interrompu depuis plus de 30 ans suite à la guerre civile en Angola. Sa réouverture est une opportunité pour la SNCC de disposer d'un trafic international important. Comment analyser cette initiative? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Al Kitenge. Bonsoir Al.
Bonsoir Alain, comment ça va?
Ça va bien, merci. Vous êtes analyste économique et stratège. Bienvenue Marie Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Vous êtes directeur de la rédaction économie du quotidien Le Potentiel, également analyste économique et politique. Et il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Israël Moutala, il est journaliste également, analyste politique et économique. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La voie ferrée de Benguela qui relie le territoire de Dilolo-Katanga au port de Lobito en Angola sur l'océan Atlantique a été inaugurée samedi 14 février dernier. Le trafic sur cette voie était interrompu depuis plus de 30 ans suite à la guerre civile en Angola. La cérémonie d'inauguration de cette voie ferrée a eu lieu en présence des chefs d'État congolais, zambiens et angolais. Karine Toperidasi.
La réouverture de cette voie ferrée est une opportunité pour la SNCC de pouvoir bénéficier d'un autre trafic international important. Pour la SNCC, cette voie va non seulement rapprocher la RDC à l'Angola, mais elle offrira aussi des opportunités à cette entreprise qui traverse de nos jours des temps de turbulence. Longue de 1344 km, la ligne de Benguela relie le port de Lobito à la ville de Loao, frontalière avec Dilolo en RDC et de sa province du Katanga, riche rapporte l'administrateur du territoire de Dilolo. Et selon le site d'information China Railways qui a exécuté les travaux de reconstruction de cette voie, cette ligne pourra désormais acheminer 20 millions de tonnes de matières premières par an dans des trains roulant à 90 km par heure. Pour cette journée inaugurale, une locomotive transportant à son bord les trois chefs d'État a roulé sur plusieurs kilomètres côté angolais avant de s'arrêter à quelques 20 mètres de la frontière congolo-angolaise, rapporte des témoins. Lubumbashi, Karine Toperidasi, Radio Kapi.
Merci Karine Toperidasi. Al Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Al Kitenge, comment vous analysez cette initiative? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Je l'ai dit il y a une dizaine d'années sur RFI, c'était très important pour nous que la voie de Lobito soit réouverte le plus vite possible, aussi vite que la guerre en Angola s'est terminée. Je pense que c'est une opportunité majeure pour la partie sud de notre pays qui est restée en état d'économie délabrée pendant trop longtemps faute de connectivité à la République. Mais je voudrais aussi que vous regardiez au travers de mes yeux ce que moi j'ai vu lorsque je regardais les images de cette inauguration. J'ai vu d'un côté, le côté angolais, une gare hyper moderne, des infrastructures qui montrent l'insolence du cash, la puissance financière de l'Angola, et de l'autre côté, un peuple très très joyeux qui, pour la première fois, découvrait son président de la République et qui était, malgré tout, malgré la pauvreté, très enthousiaste et très très joyeux. Et lorsque vous regardez au travers des images que l'on montrait, aucune infrastructure de notre côté, et ça montre clairement qu'il y a un déséquilibre. Mais en fait, ce déséquilibre, on l'exprime de manière assez claire en termes financiers. Vous savez, l'Angola, c'est quand même 20 millions de personnes, 72 milliards de dollars de budget, et le Congo, c'est quand même 72 millions de personnes, et seulement 8 milliards de dollars de budget. Et donc, cette différence est notable, elle est visible, et on l'a vu à cette frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, ça voudrait dire quand même que cette partie de la République va être finalement alimentée. Vous savez, l'Angola est très intéressée, c'est pour ça qu'il y avait le président zambien, à acheminer de la marchandise de part et d'autre. Parce que la Zambie a le choix entre Durban en Afrique du Sud, la Tanzanie et bien sûr la voie de Lobito. En fait, cet exercice de charme était tout simplement pour montrer au président zambien qu'il devrait accompagner le président congolais dans l'acheminement du fret vers le port de Lobito. Et donc, mon point de vue, c'est que c'est vrai, c'est une opportunité pour nous, mais ça demande tout de même que nous fassions des investissements aussi bien sur les voies ferrées que éventuellement sur les gares et les différentes activités que l'on pourra avoir. Parce que lorsque vous parlez du trafic, vous parlez de la SNCC, l'histoire nous renseigne que le trafic le plus important, c'était le trafic minier. Mais il faut quand même savoir que dans le sens inverse, il y a le trafic agricole. Et donc, ça demande que la République démocratique du Congo se dote d'un plan de vivification de l'économie agricole de cette partie de la République.
Alors, du côté angolais, des infrastructures modernes, dites-vous, du côté congolais, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas parce que peut-être la SNCC a été mise à genoux?
Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut reconnaître que pendant l'arrêt de l'activité liée à la guerre en Angola, ça a duré quand même 25 ans, cette partie de la République est complètement morte et les activités de la SNCC sur cette partie se sont carrément éteintes, simplement parce qu'elles étaient en grande partie économiquement viabilisées par le trafic minier. Faute de ce levier financier, du trafic minier, l'activité n'était économiquement pas viable. Mais entre-temps, la SNCC est tombée de sa propre chute et aujourd'hui, la SNCC est en train de se remettre debout sur plusieurs axes et cette opportunité mérite une attention très particulière et éventuellement des investissements spécifiques. À mon avis, ces investissements peuvent venir à la fois des efforts de l'État, mais également des efforts de l'entreprise parce que c'est une entreprise commerciale. Elle a là une opportunité qu'elle peut utiliser comme levier pour être en mesure d'emprunter de l'argent, pour être en mesure de réhabiliter les voies, être en mesure de reprendre du trafic.
Alors, peut-être pour les auditeurs qui nous suivent à Kitenge, cette émission est également pédagogique, vous le savez. Qu'est-ce que ça représente, l'ouverture du chemin de fer, dit Lolo Lobito? Une explication un peu plus détaillée pour les auditeurs qui nous suivent.
En fait, l'ouverture du chemin de fer Lobito dit Lolo, pour la partie angolaise, c'est une voie d'accès d'une activité économique supplémentaire en provenance de la République démocratique du Congo. De notre côté, ça veut dire que certaines exploitations qui n'étaient plus viables, à savoir Kisenge et Manganèse, vont devoir reprendre du poil de la bête et être en mesure de redevenir économiquement viables et donc recommencer. De la même manière, lorsque vous regardez l'ENA avec l'exploitation du charbon et bien entendu aujourd'hui l'exploitation de certains minéraux, il y a là la possibilité de rendre plus viables ces exploitations, ce qui n'était pas le cas. Mais je voudrais aussi dire que du point de vue de l'économie indirecte, cette voie est quand même une voie qui longe plusieurs kilomètres et donc des populations qui ont été longuement coupées de la République et aujourd'hui c'est une reprise et donc la capacité pour nous non seulement de leur offrir des opportunités économiques mais surtout de leur offrir des services citoyens, des services publics de base.
Et donc en termes simples, la RDC gagnerait beaucoup plus par le port de Lobito que Durban en Afrique du Sud ou par la Tanzanie.
La distance le montrant, c'est clair que nous, c'est d'ailleurs pour ça que de tout le temps que nous étions tout petits, c'était la voie par laquelle nous évacuions les marchandises et essentiellement la production de la gécamine. Donc c'est la voie par excellence, elle est très économique et nous permet de gagner en productivité et éventuellement de pouvoir changer la carte. Parce que tout compte fait, le paradigme de gestion de l'économie minière va devoir changer avec l'efficience sur cette route, sur cette voie. Et cela veut dire simplement qu'il faut à la fiabiliser pour que la vitesse de circulation soit acceptable et que les délais soient réduits et qu'il n'y ait pas beaucoup d'accidents liés au simple fait de la vétusté des chemins de fer. Soit dit en passant, la SNCT est en train d'acquérir sur fonds propres et sur fonds gouvernementaux un certain nombre de locomotives qui vont peut-être lui permettre de se viabiliser sur cette voie.
Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes directeur de la rédaction économie du quotidien Le Potentiel. Vous êtes également analyste économique et politique. Comment vous analysez cette initiative, vous venez de suivre Al-Kitenge.
Oui, Al-Kitenge a justifié l'initiative avec beaucoup de compétences et beaucoup d'éclairage, ce qui permet à ce que nous puissions prendre la question de par l'autre bout, notamment pour démontrer que la route coûte un peu plus cher que le rail, et le rail lui-même coûte un peu plus cher que les eaux, etc. Et lorsque une marchandise, un produit est transporté plutôt par le rail que par la route, au niveau de la compétitivité, les avantages comparatifs sont tels que il est 10 fois préférable de transporter des produits tels que le cuivre, les minerais, par la voie de rail plutôt que par la route. Donc généralement, pendant tout ce temps, on a transporté le cuivre, notamment le cuivre congolais, les minerais congolais, par la route, ce qui, sur le plan, au niveau de la vente, coûtait excessivement cher et rendant par la même occasion le minerai congolais non compétitif. Donc là, on va gagner en avantage sur le plan compétitif. Alors, d'autre part, si on remonte un peu à l'histoire, à un moment donné, lorsque cette guerre avait éclaté et que la voie de Lobito n'était plus à la portée de Congolais, hein, nous, le minerai quittait Kinshasa, quittait plutôt le Katanga par rail jusqu'à Ilebo, rupture. À Ilebo, le minerai reprend le rail, j'ai dit plutôt le contraire, ça quitte le rail du Katanga à Ilebo. À Ilebo, ça va dans le fleuve, sur le fleuve, ça arrive à Kinshasa, on reprend encore le rail, et vous vous rendez compte qu'il y avait plusieurs ruptures au point que le transport des minerais congolais vers l'extérieur par la voie de Matadi était excessivement cher, et ça rendait la marge difficile pour les investisseurs qui investissaient ici en République démocratique du Congo. Donc, lorsque le tonnage est transporté et subit autant de ruptures, ça veut dire que le produit arrivera à destination en retard, les échéances sont rallongées, ça veut dire également que le coût est quelque peu difficile. Donc, vous vous rendez compte par vous-même que cette voie de Lobito va permettre à ce qu'il n'y ait plus de ruptures comme on avait enregistré par la voie intérieure à la ville démocratique du Congo, mais en passant par l'Angola, par la Zambie et au port de Lobito en Angola, on réduit sensiblement le coût des transports, qui est un facteur déterminant dans la détermination d'un prix, du prix de revient d'un produit quelconque vers le marché extérieur.
Alors, Alkitenge parlait tout à l'heure du contraste entre la partie angolaise et la partie congolaise, du point de vue infrastructure, du point de vue matériel, moderne, ainsi de suite. Est-ce que cette initiative, bienvenue Marie Bakoumania, ne donne pas l'opportunité de faire ou de refaire l'état des lieux du réseau ferroviaire congolais?
Absolument, absolument. Pendant les 30 années d'absence d'activité du côté congolais, il y a eu réellement, tout était réellement à l'arrêt du côté congolais, parce qu'on a fait en sorte que la SNCZ, la SNCC ne puisse plus fonctionner du tout. Pendant ces temps, les autres...
On a fait, qui a fait ?
Écoutez, c'est une affaire de volonté politique, carrément. Personne n'a voulu que la SNCC puisse continuer à fonctionner normalement. On justifie par le fait qu'il y a eu effondrement de la production à la Gécamines. Ça peut se justifier, mais ça ne justifie pas
tout. Au profit du réseau routier.
Le réseau routier est venu pratiquement à la rescousse, parce que la nature a horreur du vide. Lorsque les trains ne fonctionnent plus, n'interdisez pas aux opérateurs routiers de reprendre le relais. La nature a horreur du vide. On devrait plutôt continuer à entretenir la SNCC en dotant cette entreprise d'État des moyens conséquents pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. On a préféré d'autres solutions, notamment privilégier, favoriser l'éclosion de la voie routière. Les conséquences sont là. On n'a pas pris le soin d'entretenir la SNCC. Mais aujourd'hui que les choses commencent à revenir à la normale petit à petit, il faut dire que le chemin est encore long, est encore très long. Les infrastructures n'existent plus que de nom. Des efforts doivent être fournis pour que nous puissions ne fût-ce qu'avoir des gares qui répondent aux normes, qu'on puisse avoir des rails qui répondent aux standards normaux et aux standards mondiaux. Nous avons encore du temps, nous avons encore du chemin à parcourir avec l'assistance de partenaires. Le gouvernement, sur fonds propres, est en train de doter la SNCC des locomotives, mais je pense que ce n'est pas suffisant dans la mesure où les locomotives doivent circuler sur des rails, et ces rails ne sont pas toujours en état de recevoir. Lorsqu'on on entend de l'autre côté, les trains feraient 90 km à l'heure, ben, les nôtres, 20 km à l'heure, c'est déjà un exploit.
Voilà, Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, également analyste politique et économique. Comment vous analysez cette initiative?
C'est une initiative que j'applaudis de deux mains. Et on ne peut pas développer la RDC sans développer ses infrastructures de communication. C'est impossible, c'est impossible. Donc on ne peut pas avoir à l'esprit la pensée ou la phrase qu'avait prononcée Henri Montand Stanley quand il disait que sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny.
On semble l'avoir oublié, cette phrase.
C'est une phrase capitale, une phrase qui en elle-même concentre toute la problématique de notre développement. C'est-à-dire, nous avons un territoire immense, et justement, pour que ce territoire soit mis en valeur, il faudra absolument que nous ayons des moyens de communication performants. Donc, au-delà du rail, mais le rail a un rôle clé à jouer, parce que le rail est le moyen de transport le moins coûteux. Donc, il y a ce que les économistes appellent la charge à l'essieu. Donc, quand vous comparez les charges à l'essieu de tous les modes de transport, le rail est celui qui offre le moins de difficultés à ce sujet.
Et en RDC, ça fait plus de 5000 km de voies ferrées.
Tout à fait. Nous avons le rail au Katanga, dans les deux Kasaï. Nous l'avons aussi
au Maniema.
Au Maniema, en province orientale. Chemin de fer de Haut-Ouélé et de Bas-Ouélé. Nous avons aussi l'Onatra à la partie ouest. Mais pour revenir à la problématique de la SNCC et du rail en général, et pour recouper avec l'Obito, il y a d'abord un contentieux. Parce que ce chemin de fer, c'est le contentieux angolo-congolais. Parce que la paternité de ce chemin de fer entre... depuis la partie angolaise jusqu'au port de l'Obito a été financée par l'argent du Congo. Et donc c'est une question, il y a un contentieux parce que ce sont les Belges qui avaient financé ce chemin de fer pour évacuer la production minière essentiellement. Et donc c'était la voie la moins coûteuse pour évacuer la production minière notamment. Et il y avait trois voies à l'époque pour évacuer notre minerai. Il y avait Matadi, comme l'a si bien dit Bienvenue, mais il y avait une autre voie, c'était Dar es Salaam. Ça veut dire que le cuivre quittait le site du Katanga, il allait jusqu'à Kalemi, et dans Kalemi, on le mettait sur le bateau, et sur le bateau, il traversait le lac Tanganyika pour aller à Dar es Salaam et aller à l'export en Belgique. Et donc, quand il y a eu des guerres à l'est de la République, dans le nord Katanga, les guerres et tout ça, il n'y avait plus moyen que le train circule. Alors là, on s'est rabattu sur Durban en Afrique du Sud, comme l'a si bien dit Al-Kitenge. Et donc, nous avons une problématique, il y avait plusieurs voies d'évacuation, mais même la nôtre, celle de Matadi, comme l'a si bien dit Bienvenue ici, il y avait des ruptures de charge. Quand il y a des ruptures de charge, il y a accroissement de coûts. Donc, parce que quand il y a rupture de charge, il y a transbordement. Donc, il faut payer, il faut des manutentions et tout ça, ça coûte. Mais la voie de l'Obito, c'est une voie où il n'y avait pas, ou très peu, de rupture de charge. Ça veut dire que vous n'allez le charger qu'au bateau une fois arrivé au port de l'Obito. Et donc c'était la voie la moins coûteuse, la plus courte et donc la plus intéressante économiquement parlant.
Alors, quels sont les préalables pour vous, Israël Moutala, quels sont les préalables pour que la RDC puisse capitaliser cette opportunité?
L'opportunité, d'abord, c'est de réaffirmer le rôle central de la SNCC. Donc, il faut que la SNCC puisse, justement, parce que du côté angolais, le travail a été fait. Mais du côté congolais, le travail n'a pas encore été fait. Dans quel état se trouve le rail à partir de Dilolo? Donc de Dilolo jusque dans les autres gares du Katanga, jusqu'à Kolwezi, il y a un chemin de fer de Dilolo jusqu'à Kolwezi, qui est le centre névralgique de la production minière. Alors cette voie là-bas de Kolwezi jusqu'à Dilolo, en passant par les autres gares intermédiaires, est-ce qu'il faut qu'il y ait un travail qui a été fait? Et là, est-ce que, parce que c'était prévisible que les Angolais avaient déjà mis les moyens pour justement refaire le chemin de fer de leur côté. Parce que de notre côté, il y avait cette anticipation justement pour qu'on se dise que voilà, d'ici 2015, les Angolais vont achever leur partie. De notre côté, quand est-ce que nous serons prêts. Je pense que le travail maintenant de notre côté commence à se faire à partir justement de l'inauguration du chemin de fer par l'Angola. C'est le travail qui est en train d'être fait maintenant, je crois, actuellement. Voir dans quel état se trouve le rail, voir dans quel état, quelle locomotive on peut affecter et tout ça. Donc le travail maintenant, la réflexion se fait maintenant. Donc, mais je pense que c'est récupérable et on va trouver le financement. Mais la SNCC elle-même était dans un état pitoyable. Moi, je pense que c'est avec Tchongo et notamment qu'on a pu trouver le premier financement de 300 millions de dollars avec lequel on a acheté les premières locomotives et avec lequel on a reconditionné les locomotives sud-africaines. Donc, n'eût été le financement de la Banque mondiale qu'avait trouvé Tchongo, je pense qu'aujourd'hui on serait encore loin du compte. Mais au moins, le gouvernement aussi a dégagé un financement pour des locomotives supplémentaires. Mais comme l'a dit Bienvenue ici, il ne suffit pas d'avoir des locomotives. Il faudrait absolument repenser toute la stratégie de la SNCC en termes de personnel, en termes d'installation fixe, pour justement remettre cette entreprise à niveau.
Al-Kitenge, pour vous, quels sont les préalables? Israël parle de réaffirmer le rôle central de la SNCC.
De toute façon, c'est le rôle central de la RDC, quel que soit le modèle économique que nous voudrons discuter. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis, je souhaiterais beaucoup que, au sein de la SNCC, la partie d'exploitation sud, ça veut dire qui va de Kolwezi jusqu'en Zambie, soit érigée en centre de profit, ça veut dire un projet à part qui détermine une viabilisation rapide par des emprunts en capitaux importants pour être en mesure de réhabiliter et fiabiliser le réseau. Parce que il faut quand même reconnaître que la SNCC a ses 1001 problèmes. Si on voudrait transposer tous ces problèmes sur cette partie, nous allons transposer les lourdeurs de la macrostructure sur ce projet qui a la possibilité d'être très viable et éventuellement être le levier pour le reste. Et mon point de vue est que, pour vous dire, le chemin de fer est en état d'exploitation. Jusqu'à présent, il y a des trains qui partent et qui reviennent, mais ils partent à du 20 km à l'heure. Ce n'est pas compétitif. Et donc, pour éviter des accidents et pour permettre que nous puissions être en mesure de rouler à des vitesses de plus en plus compétitives, il est important que beaucoup d'argent soit investi sur le réseau pour que le réseau soit fiabilisé et que les gares soient viabilisées et que, éventuellement, le matériel dans lequel on a investi ne soit pas simplement soumis à des accidents qui étaient pourtant évitables.
Et donc, de votre point de vue, la RDC peut rattraper son retard par rapport à la partie
anglaise. Il nous faut beaucoup d'argent et il faut se mettre en condition de pouvoir absorber cet argent. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la possibilité d'isoler cette branche en centre de profit et être à mesure de lui donner une cure financière importante et une assistance technique intensive. Et de mon point de vue, plusieurs modèles économiques sont envisageables.
Alors, la SNCC, on le sait, a déjà beaucoup de problèmes. Faut-il continuer sur cette lancée ou il faut refaire autre chose?
La SNCC est une entité de transport extrêmement importante qui a deux vocations. La première vocation, c'est une vocation commerciale pure et simple, donc la rentabilité. Mais la deuxième vocation, c'est une vocation de responsabilité sociétale et économique. Il y a une partie de la République qui ne vit que grâce au simple fait que le chemin de fer passe par là. Et ça, c'est une responsabilité politique. Bien entendu, encore une fois, en termes d'approche, le gouvernement a le choix entre continuer à considérer la SNCC comme une entité unique ou lui donner deux vocations et donc deux entités en une. Dans beaucoup de pays, dans les sociétés de chemin de fer, il y a plusieurs sociétés. Et donc, encore une fois, fonction des missions qui sont données à la société ou aux différentes branches de la société, il y a un comportement économique à adopter.
Alors, il faut un plan intégré entre les trois pays. C'était notamment l'essentiel d'une réunion qui a eu lieu en 2013 entre le ministre congolais des Transports, le ministre zambien et le ministre angolais. Ce plan, la RDC est-elle en mesure de le supporter?
Israël l'a dit tout à l'heure, à l'époque où ce chemin de fer a été mis en place, il a été mis en place par l'argent de la République démocratique du Congo. En fait, c'était des dividendes de l'exploitation minière du cuivre et du cobalt. Aujourd'hui, la situation est inverse. Le pays le plus liquide d'entre nous trois, c'est l'Angola. Et donc l'Angola, pour des raisons y compris de sa propre rentabilité, a intérêt à injecter de l'argent dans notre réseau. les modèles économiques sont multiples qui peuvent justifier cet arrangement, mais aujourd'hui, l'Angola peut, dans ce projet très particulier, être en mesure de financer ou de participer au financement de la réhabilitation de cette voie. Je pense que c'est dans son intérêt et je sais que les ministres qui discutent de ces questions ont suffisamment d'éléments pour être en mesure de faire des montages viables.
Bienvenue Marie Bakoumania. Pour vous, quels sont les préalables? Israël Moutala a parlé tout à l'heure... Parler de viabiliser la SNCC, notamment Al-Kitenge a ajouté certains éléments. Pour vous, c'est quoi les préalables?
Mais déjà que les trois chefs d'État soient disposés, non pas les chefs d'État, que les trois États soient disposés à travailler la main dans la main pour qu'on puisse intégrer les différentes économies sur ce plan particulièrement, démontre à suffisance que des préalables les plus importants, c'est-à-dire la volonté politique, est là. D'autre part, sur le plan opérationnel, je crois que la fiabilisation de la SNCC qui est en cours doit se poursuivre et doit bénéficier du soutien de bailleurs de fonds, notamment de bailleurs de fonds qui s'intéressent particulièrement aux projets intégrateurs au niveau du continent. Parce que ces tronçons est également épinglé par le NEPAD. Rappelez-vous ce grand projet, méga projet pour le développement économique du continent intègre justement cette voie ferrée. Et jouer notre partition ne peut être possible que si les partenaires, la Banque mondiale, notamment la Banque africaine de développement, acceptent de mettre la main à la poche. Mais aujourd'hui que le pays est devenu quelque peu fréquentable, sa dette ayant été, l'ardoise ayant été effacée dans une grande proportion, je pense que les institutions financières internationales ont tout intérêt à financer pareil projet, d'autant plus que non seulement il apporte il vient en soutien à la croissance, mais il apporte également les développements, il apporte également l'intégration sous-régionale. Déjà, si l'on peut relier trois pays, si l'on peut relier trois économies des trois pays frontaliers, je pense que c'est une avancée intéressante lorsqu'on est dans un environnement de la mondialisation. Et ne pas rater ce train comme l'ont fait les chefs d'État, c'est déjà une volonté manifeste d'aller de l'avant, une volonté manifeste de pouvoir s'émanciper de cette dépendance qu'on a souvent à des choses qui, économiquement parlant, constituent des freins, constituent des pesanteurs. Notamment, au lieu de transporter par le rail, vous allez par la route qui coûte excessivement cher, au lieu d'aller par une voie détournée où il y a des ruptures, des charges, comme on l'a démontré tout à l'heure, on peut facilement rouler sur des rails et à des coûts intéressants, à des échéances également, la durée des transferts également, des durées réduites. Et donc tout le monde a tout à gagner dans ces projets, un projet qui peut également créer des emplois de part et d'autre.
On le sait, bienvenue Marie Bakoumania, en termes d'intégration régionale ou sous-régionale, on a l'impression que l'Afrique de l'Ouest a mieux réussi que l'Afrique centrale.
Eh ben oui, effectivement, l'Afrique de l'Ouest a mieux réussi parce que il y a eu une sorte de dénominateur commun, et c'est un peu la France. Hein. Je pense que, peut-être que je peux me tromper, mais je suis d'avis que les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils avaient un dénominateur commun qui faisait en sorte qu'ils puissent penser leurs économies de manière intégrée. Nous, ici, un pays comme la RDC, partagé entre l'Afrique du centre, le sud et l'est, c'est un pays qui ne sait où donner de la tête.
Mais et pourtant, ça devait être le pays qui devrait le plus bénéficier, en d'autres termes.
Ben justement, lorsqu'on a toujours martelé dans cette émission qu'il faut refonder l'État, on ne le dit pas par hasard. Nous étions constitués pendant un temps. Nous nous sommes présentés au monde comme un trou noir. Et aujourd'hui, qu'on est en train de renaître petit à petit de nos cendres, je pense qu'il faut pousser davantage, booster davantage cette dynamique de refondation de l'État, de reconstruction de l'État, parce qu'il faut dire notre État s'était liquéfié sérieusement.
Israël Moutala, les contingences politiques n'ont-elles pas pris le dessus en ce qui concerne l'intégration régionale et sous-régionale en Afrique centrale?
Bien sûr, la question de l'intégration régionale en Afrique centrale est une question qui ne peut pas bien avancer. Pour la simple raison, d'abord nous-mêmes en tant qu'État, avant de parler d'intégration sous-régionale, nous-mêmes en tant que pays, nous ne sommes pas intégrés. Et donc, pour que je me rende dans l'une ou l'autre province, il faudra absolument soit que je prenne l'avion ou bien au péril de ma vie. Et donc, c'est pas donc d'avoir un problème d'intégration nationale. Ça veut dire que comment ce défi qui est d'abord national, on n'arrive pas à le résoudre. Si on n'arrive pas à le résoudre, comment est-ce qu'on peut justement s'attaquer à un autre plus grand défi comme l'intégration sous-régionale, parce que nous appartenons à plusieurs régions géographiques. Nous sommes en Afrique de l'Est, nous sommes en Afrique centrale, nous sommes avec la SADC en Afrique australe, bref, nous avons plusieurs regroupements régionaux, donc nous avons une position centrale que nous pouvons capitaliser, mais à condition d'abord que nous-mêmes nous soyons intégrés. Parce que si même nous sommes intégrés, nous aurons encore plus de puissance économique, plus de puissance politique, et donc ça va avoir une induction sur l'intégration régionale. Même pour revenir à cette voie de Lobito, il y a même un débat. Économiquement, peut-être c'est la voie la plus viable, mais de manière, les souverainistes congolais pensent que la meilleure voie, c'est par Matadi. Parce que là, nous allons contrôler. Nous sommes souverains de bout en bout. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes fâchés avec l'Angola et que l'Angola dit non, d'accord, votre marchandise ne passe pas, nous sommes asphyxiés. Et donc, pour que nous soyons un État totalement souverain, il faudra absolument que le rail revienne à Ilebo. Et que de Ilebo, justement, il y avait un projet de jeter un pont, mais bon, enfin, il était très gigantesque. Ou bien on met un grand bateau et tout ça. Mais il faudra absolument que nous ayons une voie de secours. Et cette voie de secours doit être totalement maîtrisée par nous-mêmes. Et donc, c'est une question très, très importante. On a vu, par exemple, qu'une société, Al Kitenge l'a mentionné ici, Kisinga Manganese, elle est morte de sa belle mort. Pourquoi ? Parce que il n'y avait pas de voie d'évacuation. Parce qu'il ne suffit pas d'extraire le minerai, de le traiter. Il suffit aussi, justement, d'avoir un moyen de l'évacuer qui soit économiquement viable. Or, l'entreprise Kisinga Manganese a pâti du fait que la voie d'évacuation qui était en adéquation avec son business plan était le chemin de fer de Lobito. Et que là, maintenant, pendant qu'il a été fermé pendant 30 ans, donc cette société ne pouvait pas œuvrer. Et donc, tout ça aussi, c'est une faiblesse nationale. Il faut que nous ayons plusieurs voies d'évacuation et la SNCZ doit rentrer dans la stratégie nationale de communication. Et je vois que l'État se poumonne beaucoup pour décréter une classe moyenne. Par décret, par tout ça, il s'est poumonné. Je veux la classe moyenne, je veux la classe moyenne. Mais la classe moyenne, ça ne se décrète pas. Il faut qu'on crée des managers. Il faut déjà que ce soit des gens qui veulent gagner de l'argent, déjà qui soient inventifs, déjà qui prennent les risques. L'État ne peut pas, à coup de décret, demander aux gens de prendre le risque, d'investir le peu d'argent. Bref, non, c'est compliqué. Et donc, vous avez par exemple le transport de minerais qui se fait majoritairement par voie de camions, par voie routière avec des camions, mais c'est contrôlé à 90% par des étrangers. Et donc, vous avez là un moyen avec la SNCC, avec la voie de Lobito, de récupérer ces trafics justement, et de gagner une partie de souveraineté, une partie d'argent avec ce trafic-là, parce que l'argent qui va aux mains des étrangers qui exploitent le trafic routier va rentrer dans la caisse nationale, et c'est une bonne chose.
Al Kitenge, la RDC doit s'autonomiser aussi par la voie de l'Ouest, le réseau ferroviaire Kinshasa-Matadi, mais on a l'impression que cette partie connaît les mêmes problèmes que celle du Sud.
Oui, je disais au début de cette émission que nous étions un pays complètement isolé vis-à-vis de l'accès à la mer. Notre accès à la mer est très limité. Même si nous voulons réellement réutiliser la voie de l'Ouest, Matadi n'est pas nécessairement la solution. La solution, c'est Banana, donc un port en eau profonde. Il faut donc des investissements. Encore une fois, là-bas, l'État a le choix entre chercher de l'argent en tant qu'État et faire un port qui appartient à l'État. Et je connais très peu de pays du monde qui ont réussi comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les ports autonomes, qui sont en fait des institutions privées ou publiques privées. Il faut donc attirer rapidement des capitaux là-dedans. Encore une fois, moi je pense que la solution dans un pays, c'est d'avoir plusieurs opportunités. On ne peut pas avoir une économie à un pied. Une économie doit avoir plusieurs pieds, doit être diversifiée pour être en mesure d'être résiliente. Et il est important que vous compreniez, et je le dis tout le temps, le rôle de l'argent liquide. qui nous manque cruellement. Il faut être en mesure d'attirer de l'argent dans notre économie pour que notre économie puisse être en mesure de remonter. Un des acteurs qu'il faut mettre en levier, ce sont les miniers eux-mêmes. Ils déclarent qu'ils investissent des milliards et des milliards de dollars. Ils devraient participer à l'investissement dans les infrastructures qui vont faciliter leur propre exploitation. Et il faut savoir les utiliser en tant que contributeurs directs ou en tant qu'effet de levier. Et ça, c'est extrêmement important. Je redis encore une fois, il nous faut beaucoup d'argent liquide pour être en mesure de faire vivifier l'économie congolaise, qui est quand même une trop petite économie par rapport à notre étendue de la République, par rapport à notre population. Juste deux chiffres. Lorsque vous prenez le budget de l'État congolais, vous le divisez par le nombre de personnes et vous le divisez par le nombre de kilomètres carrés et vous faites le même exercice pour l'Angola et pour le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a 120 fois plus de moyens que nous par tête d'habitants et au kilomètre carré, et l'Angola a 560 fois plus de moyens que nous par tête d'habitants et par kilomètre carré. Alors vous vous dites bien, la mission des dirigeants congolais de Kabila à Matata est quand même une mission impossible et elle ne peut pas être comparée par rapport à ce que nos amis en face sont en train de faire et par rapport à ce que nos amis en Angola sont en train de faire. Il est important que l'on comprenne qu'il faut étendre, porter à l'échelle le succès que nous avons réussi à avoir dans le cadre de la discipline de gestion d'aujourd'hui. Maintenant, il faut porter tout ça à la grande échelle pour que tout le monde puisse être en mesure d'en saisir les moyens et les bénéfices.
Et cela passe par la mise en place d'un plan national de développement, comme vous l'avez dit souvent.
Vous avez totalement raison, parce que celui-là nous permettra de nous rendre compte que les défis auxquels nous sommes confrontés sont très importants, et je vous assure, les missions sont dures. Si nous arrivons à le faire et nous évaluons les besoins, nous évaluons les quantités d'argent dont on a besoin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont fuir les postes de ministres.
Bien plus, Marie Bakoumania, il faut diversifier l'économie. C'est l'une des solutions pour que la RDC puisse tenir tête devant cette opportunité qui lui est offerte.
Ah oui, justement, Alain, nous sommes dans une économie des rentes, une économie des cueillettes. Hein, et nous nous complaisons à demeurer dans cette économie. On ne fournit pas un effort pour que nous puissions diversifier cette économie. Ce ne sont pas les potentialités qui nous manquent. Sont plutôt les intelligences qui nous manquent. Nous n'arrivons pas à développer des stratégies qui nous permettraient, avec les potentialités existantes, de pouvoir diversifier notre économie. Je pense qu'il est temps. Il est temps pour la République démocratique du Congo d'identifier les segments de la chaîne de production des valeurs afin que nous puissions finalement entrer dans cette mondialisation. Nous devons cesser de nous complaire à être une réserve où l'on vient extraire des matières et exporter à l'état brut. Nous devons nous efforcer, c'est-à-dire nos dirigeants doivent s'efforcer à ce que nous puissions arriver quand même et enfin à rentabiliser nos potentialités à notre bénéfice premièrement. C'est l'occasion de constater aussi, hein, même quand on voit cette voie d'évacuation par l'hôpital, c'est toujours, nous privilégions toujours les voies de l'extraversion, nous consolidons l'extraversion de notre économie. Ces ressources pouvaient également servir à ce que nous puissions consolider le rail à l'interne. Nous célébrons, nous saluons cet exploit qui consiste à rouvrir après 30 ans cette voie d'évacuation, mais nous devons réfléchir abondamment, nous devons réfléchir sérieusement par rapport à l'intégration de notre économie, par rapport à l'intégration des voies de communication. Nous avons des routes à construire. Et si on arrive seulement à construire 3000 km de route, on peut relier le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. On n'est pas capable de le faire et visiblement on n'est pas disposé à le faire. On privilégie la volonté politique n'y est toujours pas.
Israël Moutala, il y a Grégoire Mombi qui nous écrit de la Belgique. Il dit, ma préoccupation est celle-ci, comment la RDC continue à extravertir son économie par son système de transport ferroviaire, que de l'intravertir avec la partie nord en réhabilitant le chemin de fer de Louélé pour relier la région de Louélé dans la province orientale à Kinshasa en passant par l'équateur au port de Bumba. On aura ainsi connecté le chemin de fer au fleuve avec la reprise des trafics fluviaux que vous avez annoncé tout récemment.
Tout à fait, je suis d'accord, je partage son avis, mais je dis encore, comme pour rebondir sur le propos de Hall, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons un État extrêmement faible. Et donc, je suis de son avis aussi. Et quand les gens fanfaronnent en étant ministre ici, ça me déçoit. La modicité de moyens nous impose quoi? Une discipline budgétaire. Il faut que chaque franc congolais serve à un projet, à effet multiplicateur, avec des effets multiplicateurs nombreux. Mais vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous avez créé une institution comme le Conseil économique et social. Mais qu'est-ce qu'il va inventer? Vous voyez, l'argent que vous allez gérer, tout ce personnel-là, c'est l'argent que vous pouvez faire de projets comme construire un nouveau bateau, réhabiliter un nouveau ITB Kokolo et tout ça. Je vais vous donner l'exemple, encore. Je reviens toujours à l'exemple de réserve stratégique. Allez demander. Il faudrait maintenant que chaque ligne budgétaire, qu'on examine chaque ligne budgétaire. Alors là, ce jour-là, les députés seront sérieux. Quand vous regardez les frais de fonctionnement de certaines institutions, ça n'en vaut pas la peine. Il faut absolument que l'État resserre justement sa dépense pour que chaque franc congolais serve à des projets porteurs. Il faudrait absolument, encore une fois, nous appuyer sur le secteur privé. Parce que l'État, avec toute la bonne foi du monde, le temps qu'il se réforme, qu'il arrive à lever par exemple 500 millions de dollars sur le marché boursier comme le Rwanda, c'est pas demain. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Nous avons la note B-1, je crois, par Standard & Poor's. Et donc, il faudrait pour que nous arrivions même avec une note positive de B+, pour que ça nous permette d'emprunter l'argent sur le marché boursier à des taux raisonnables. C'est pas demain. Bien que ma tête a fait un travail formidable quand même là-dessus. Alors, il faudra absolument, comme l'a dit Bienvenue aussi, absolument nous appuyer sur le secteur privé et HAL, parce que le nombre de kilomètres de route à construire, le nombre de des unités de navigation à mettre sur pied, bien. Il y a tellement à faire que le budget de l'État ne peut pas absolument le faire. Nous sommes à peine 5 milliards en ressources propres. Donc, parce que Al était un peu gentil en disant de 8 milliards de dollars, parce qu'il a fait part des apports extérieurs. Mais en ressources propres, je crois que cette année, s'il n'y a pas de couac, nous allons atteindre finalement 5 milliards de dollars. Parce que l'année passée, je ne crois pas qu'on ait atteint. On avait visé 4 milliards, mais je crois qu'on s'était arrêté à 4
milliards. Merci.
Je crois. Voilà.
Al Kitenge, il faut beaucoup d'argent, vous l'avez dit. Pourquoi la RDC semble ne pas encore être crédible?
Je crois que nous avons deux problèmes. Le premier problème, il est interne. Nous n'arrivons pas à nous parler entre nous parce que nous pensons que tout est politique. Et malheureusement, ça nous empêche la capacité d'évaluer la réalité de la difficulté de notre pays. Moi, je donne encore une illustration proche de nous. Moi, j'ai regardé les images du chef de l'État accueilli de manière vaillante par nos compatriotes et j'étais d'ailleurs étonné qu'ils le connaissent. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsque vous regardez les conditions de ces gens, mais 70% de notre population est dans cette condition, et les gens qui prennent des armes, c'est des gens qui sont dans ces conditions, des gens à qui l'État ne donne aucun service et qui ne donnent aucune contribution à l'État. L'État, pour nous, la taille de notre pays n'est pas une tare, c'est un avantage, nous devons savoir le mettre à profit. Le nombre de personnes que nous avons dans un pays, c'est un avantage, c'est un atout, nous devons simplement savoir leur donner les compétences pour qu'ils travaillent et qu'on les mette au service de l'économie du pays. Et donc, encore une fois, on a trois choix. Le premier, c'est de redonner la santé aux gens pour que l'espérance de vie dépasse les 48 ans que nous avons aujourd'hui et que nous atteignions au moins 65 ans l'âge de la retraite légale. Deuxième, c'est que nos 70% d'illettrés doivent avoir la chance, dans les 15 années à venir, d'être le centre d'investissement majeur pour que nous ayons des gens qui ont l'intelligence nécessaire pour être en mesure de travailler avec efficacité. Et troisièmement,
ce sont
les infrastructures. Et nous, on a une chance majeure, c'est que nous sommes le hub de l'Afrique de par notre position naturelle. Et donc, la transversalité des infrastructures congolaises devraient profiter de la connectivité intra-africaine. Et je pense simplement que nous avons la possibilité de faire un levier interne et un levier externe.
Bienvenue Marie Bakoumania, il y a Trésor qui nous écrit de Lubumbashi qui dit, existe-t-il un projet de réhabilitation de la voie ferrée congolaise d'Ilolo Lubumbashi, ou soit la SNCC doit se mourir au détriment des camions trac qui font le bonheur de certains individus, toutefois nos autorités doivent faire preuve de bonne foi et d'intelligence comme celle de l'Angola.
Écoutez, vous savez, en réalité, notre difficulté à nous, Congolais, c'est parce que nous ne communiquons pas assez par rapport aux défis, par rapport à ce qui nous reste à faire. nous faisons la publicité, la propagande de ce que nous réalisons, alors que le gap est très très important. Et en fait, là, c'est une escroquerie en fait que nous vendons nous vendons à nous-mêmes et que nos dirigeants nous vendent. Et donc, c'est dire, moi, j'ai dit la vérité à ces compatriotes. Aujourd'hui, la SNCC a des vrais problèmes. Les défis sont énormes. Il faudrait pas qu'ils rêvent que du jour au lendemain, on va réhabiliter le chemin de fer d'Ilolo Lubumbashi. C'est un travail de longue haleine. Il y a même des délais incompressibles pour lesquels il faut prendre de la patience.
En guise de conclusion,
j'invite les autorités congolaises, les dirigeants congolais, majorité opposition. Demain, il y aura des élections. Il faudrait que l'on communique sur les défis. Il faudrait que nous disions aux Congolais, il y a autant de chemins de fer, nous devons en réhabiliter autant de kilomètres, et nous devons en construire autant.
Israël Moutala, en RDC, la politique est-elle l'opium du peuple, en guise de conclusion?
Oui, si je rebondis sur le propos de bienvenue, quand je vois, on est encore à des années-lumière de la révolution, de la modernité, travaillons, soyons sérieux et les défis sont énormes. Moi, parfois, je suis effrayé de voir les défis qui sont devant nous et quand je vois que les gens acceptent de postes ministériels avec légèreté, ça me...
Merci. Fin de cette émission, merci d'y avoir participé. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net. Au revoir.